Un certain nombre d'entre vous connaissent le principe, je l'évoque pour ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est donc une collaboration entre le service de la parole et le service audiovisuel de la BPI, Catherine Blangonnet. L'idée étant de montrer des films sur des écrivains. En général, il s'agit d'écrivains qui... On a préféré, c'était peut-être plus facile, des écrivains qui sont morts. Et de demander à des lecteurs, à des personnalités dont on pouvait imaginer que c'était des lecteurs, d'abord de choisir un écrivain et ensuite de parler de leur lecture. Donc j'étais très contente que Catherine Millot accepte de venir parler d'un écrivain. Il est évident que Catherine Millot, psychanalyste et écrivain elle-même, était... marquée comme lectrice, ne serait-ce que par le grand nombre de ses travaux sur des écrivains. Alors, pour ne pas m'embrouiller dans les titres, j'évoquerai bien sûr Gide, Genet, Mishima, Abîmes ordinaires, et puis ce dernier livre, La vie parfaite, autour de Jeanne Guyon, Simone Veil et Thiel Soum. Mais on peut aussi évidemment parler de l'un de ses plus anciens livres, qui est La vocation d'écrivain. Catherine Millot, après avoir imaginé peut-être Mallarmé, hein, je crois que vous aviez pensé à Mallarmé, Proust, personne n'avait osé prendre Proust, finalement a choisi Alain Fleischer, et on verra donc après sa petite intervention, sa conférence, le film que Alain Fleischer avait fait sur Pierre Klossowski. En 1996, dans la série Un siècle d'écrivains.
En fait, j'ai choisi Pierre Klossowski parce que je l'ai connu et que j'avais envie de l'évoquer, de rappeler des souvenirs et d'essayer de transmettre quelque chose de cette rencontre que j'ai eue avec lui. Alors, j'ai connu Pierre Klossowski en 68, au mois de mai, au début du mois de mai. Et donc cette rencontre s'est faite sur fond d'insurrection, ce qui après tout était parfaitement adéquat à la rencontre en question, dans la mesure où cette insurrection, c'était aussi une insurrection, plus qu'une insurrection des masses, c'était une insurrection d'individus et de gens en réalité extrêmement individualistes. Alors je ne dirais pas que c'était des cas singuliers comme Klossowski pouvait se dire, mais néanmoins c'était ces insurgés de 68, c'était des gens qui mettaient à l'affiche, puisque c'était vraiment le mot qui convient, qui mettaient à l'affiche le désir. Or c'est quelque chose qui était évidemment, cette dimension-là, extrêmement présente dans l'œuvre de Pierre. Alors c'était au début du mois, c'est-à-dire quand même avant le grand moment des barricades de la rue Soufflot et des émeutes du boulevard Saint-Michel. C'était juste avant. Alors en mai 68, pour vous situer un peu les choses, l'œuvre écrite de Pierre Klossowski était à son apogée. Et c'est à ce moment-là, il avait déjà écrit ses principaux ouvrages. Il était en train de terminer Nietzsche et le cercle vicieux, et il avait déjà publié Sade mon prochain, Le Baphomet, Le bain de Diane et la trilogie des lois de l'hospitalité. Alors il avait publié dans la collection, en particulier les lois de l'hospitalité, dans la collection Du chemin chez Gallimard, qui était dirigée par Georges Lambrix. Et c'est d'ailleurs par ce biais que je l'ai connu, puisque mon fiancé de l'époque participait au déjeuner que Lambrix organisait autour des cahiers du chemin, sa revue. Et mon fiancé y avait rencontré Pierre Klossowski, qui nous avait invités à dîner. Nous avions été conviés chez lui, et Klossowski venait de quitter la rue du Canivet près de la place qu'il habitait, près de la place Saint-Sulpice, pour un petit appartement dans une cité HLM de la rue de la Glacière. Et le contraste entre cette cité et l'intérieur de son appartement était vraiment frappant. À l'intérieur, on entrait dans son monde avec ses meubles anciens. Et c'était un appartement très sombre avec des tentures, des rideaux, des tableaux. Enfin, c'était un autre monde. C'était le monde hérité des milieux intellectuels et artistiques de la Mittelleuropa, qui était le milieu d'origine de sa famille. Sa famille originaire de Pologne et qui avait passé en France les années 20. Sa mère était l'élève de Bonnard. Ses parents étaient amis de Derain, de Maurice Denis. Enfin, donc Pierre Klossowski, petit, a évolué dans ce monde. Et puis ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, la famille avait séjourné d'abord en Allemagne, ensuite en Suisse. Et c'est là que Baladine, la mère de Pierre et de Balthus, avait rencontré Rilke, dont elle est devenue l'amante, fait, qui a été la destinataire de lettres magnifiques de Rilke sous le pseudonyme de Merline. Alors, Pierre Klossowski et la famille, d'ailleurs, est revenu à Paris après-guerre et Rilke avait recommandé Pierre donc à Gide, dont Pierre devint le secrétaire. Alors on peut imaginer, enfin ce serait déjà tout un roman que d'imaginer la rencontre entre Pierre Klossowski et André Gide. Ce que je note comme ça, ce que je mentionne au passage, c'est que il a été question à un moment donné que Pierre Klossowski illustre une édition de luxe des Faux Monnayeurs d'André Gide, et les dessins de Klossowski étaient déjà si audacieux que Gide a pris peur et que finalement l'édition ne s'est pas faite. Enfin voilà, pour vous donner comme ça l'arrière-plan des choses. Et par la suite, Pierre est devenu le secrétaire de René Laforgue, qui était un psychanalyste de la première génération de psychanalystes en France. Pierre Klossowski a aussi été dans le bain psychanalytique très tôt, puisque c'était aussi au début des années 20, à peu près au moment d'ailleurs de la fondation de la Société psychanalytique de Paris, qui était la première société psychanalytique freudienne en France. Et c'est la princesse, alors ça c'est des détails aussi très, très amusants, c'est la princesse Marie Bonaparte, qui était elle-même membre de cette et fondatrice de cette association, grande amie de Freud, qui avait suggéré et encouragé Klossowski à écrire sur Sade. Alors le résultat, je crois, l'avait fait un peu frémir, mais enfin quand même, elle a été à l'origine des textes de Klossowski sur Sade. Alors dans les années 30, Klossowski fut très proche, enfin dans les années 30, il avait entre 25 et 30 ans pour vous situer un peu les choses, et il avait été très proche de Caillois, de Denis de Rougemont, de Walter Benjamin, de Jean Val et surtout de Georges Bataille, qui a été le grand ami de Klossowski, avec lequel il participa à la revue Acéphale, ainsi qu'à un groupe qui réunissait, enfin qui était un groupe de réflexion sur la religion, qui s'intitulait Le Dieu vivant. Et il reste des activités de ce groupe, de fort intéressantes minutes, d'une discussion sur le péché, que vous pouvez trouver dans les œuvres complètes de Georges Bataille, à laquelle participait un extraordinaire rassemblement d'écrivains qui donne une idée de la vie intellectuelle de l'époque. Il y avait là, à cette discussion, Adamoff, Bataille, Blanchot, Danielou, Gandillac, Massignon, Sartre et Merleau-Ponty. Bon, ça, c'était donc dans les années 30. Alors, quand j'ai fait la connaissance de Klossowski, rue de la Glacière, j'avais déjà lu les lois de l'hospitalité et je ne tardais pas à lire tout ce qu'il avait publié. La fin des années 60 était l'époque où Pierre Klossowski fut reconnu et salué par les philosophes qui commençaient à atteindre eux-mêmes une sorte de célébrité, je veux parler de Foucault et Deleuze. Ces philosophes voyaient en lui un précurseur et lui vouaient une grande admiration. Ils se reconnaissaient dans cette dissolution du principe d'identité et du principe de non-contradiction que poursuivait Pierre Klossowski dans son œuvre par ses propres voies. Lui aussi, comme eux, visait la destitution d'un sujet qui serait maître de lui et maître chez lui. Donc destitution qui laissait place à ce que Klossowski appelait les impulsions polymorphes, qui ont quelque chose à voir avec les pulsions freudiennes, hein, les pulsions au sens des pulsions sexuelles, telles que les a dégagées Freud. Alors, le sujet, par exemple, pour quelqu'un comme Klossowski, le sujet, pour lui, n'était qu'un suppôt. Alors, évidemment, dans suppôt, on entend suppôt de Satan. Enfin, un suppôt, c'est-à-dire une sorte de prête-nom des forces qui le traversent. Alors, ce type de thématique convenait bien à Deleuze et à Foucault. Alors, tel était le personnage que j'ai rencontré ce soir de mai 68. Ce que j'ai rencontré d'abord, ce fut le regard intense dont il me transperça en m'accueillant. Et en même temps, c'était un regard bienveillant. Ce regard merveilleux, je le retrouve dans une photographie de lui à 8 ans, où l'on dirait l'Afcadio enfant. Le même œil perçant, les narines ouvertes et comme dilatées, la bouche retroussée sur des dents de lait pointues. C'est le portrait d'un enfant terrible, indomptable, dont on voit tout de suite qu'il suivrait toujours ses impulsions et jamais ne dévierait de son chemin. Alors, il était resté cet enfant-là, et en même temps, ses manières vous manifestaient une politesse cérémonieuse, pleine d'attention, avec une réserve qu'on pourrait dire aristocratique, mais qui était plutôt une sorte de retenue concentrée. Il donnait le sentiment d'être à la fois tout entier dans son monde intérieur, de fantasmes et de méditations complexes, et tout à votre présence. Ce qui dominait, c'était l'impression qu'il venait d'un autre monde, un monde révolu dont il rendait nostalgique. Georges Perros, qui était un poète et qui est trop tôt disparu, et qui était un grand ami de Pierre Klossowski, et qui participa, comme tous ses amis, à son théâtre de société, a donné de lui, avec toute l'acuité du poète, un très fidèle et très beau portrait dont je voudrais vous lire un passage. Pierre Klossowski, dans la rue, on dirait d'un faune en quête d'aller savoir quelle nymphe a perpétué. Quel Graal d'avant tout déluge. Le pas est généralement vif, rien moins que flâneur. Les enfants aussi marchent rapidement, sinon ils traînent, ils boudent. Ça lui arrive. Il y a dans cette démarche d'un baron de craque qui se tirerait non seulement par les cheveux, mais par tous les membres, une urgence, un feu secret, sacré, dont le regard d'acier de l'homme retient les derniers éclats. L'allure est curieusement déhanchée, rasante, profilée, avec je ne sais quoi de fringant, de tzigane en transit, le buste à la prussienne, les reins cambrés, comme d'un qui aurait monté Pégase. À son passage se met en branle une musique qui tient d'Offenbach et de Mozart, d'Orphée aux Enfers et de Don Giovanni, un rien inquiétante. Cet homme semble venir de très loin, pas seulement d'Europe centrale, pas seulement de la Rome impériale, pas seulement de Tübingen. Sous ce drôle de crâne, au front plus haut que nature, se battent, s'étreignent, se haïssent, font l'amour et la mort, comme nuages dans un ciel en difficulté, une multitude de dieux et déesses, les rêves et désirs indicibles des héros de la mythologie, aussi bien que ceux de Kafka, de Nietzsche, d'Hofmannsthal, de Rilke, tous véritables habitants de l'aujourd'hui, des siècles des siècles. Alors, le premier dîner, donc, que je passais chez lui, fut suivi de beaucoup d'autres. Mon fiancé s'était envolé vers d'autres cieux et désormais, ce fut seul que bientôt je fus convié. Pierre et Denise m'emmenaient aussi avec eux lorsqu'ils sortaient chez des amis et j'avais vraiment cette impression-là, que c'était comme s'ils m'avaient adopté. Alors Pierre m'avait probablement intégré à son monde fantasmatique intérieur, mais sans qu'il me dise un mot du rôle que j'y tenais. Alors bien plus tard, son neveu me dit que certainement j'avais été placée sous le signe du Baphomet. Enfin, c'était son interprétation à lui. Il pensait que j'avais été intégrée de cette façon dans son monde. Et puis, mais mon idée que j'étais, que surtout je faisais partie de la famille, était liée aussi au fait que, par exemple, il m'emmenait à la fête des loges à Saint-Germain-en-Laye avec son fils Mathieu et Denise, bien entendu. Donc tout ça était on se voyait très souvent pendant ces années-là. Et chez Pierre et Denis, j'ai fait des rencontres vraiment mémorables, celle de Foucault en particulier, que je ne connaissais avant que par ses livres et qui m'avait complètement subjuguée par sa drôlerie, sa pétulance, son entrain d'enfer. Et il c'était une sorte de boule d'énergie, elle aussi du type indomptable comme Klossowski, avec ce quelque chose aussi d'un peu diabolique. Une autre fois, j'eus pour voisin de table, à ma grande stupéfaction, Denis de Rougemont, auteur du livre mythique « L'amour et l'Occident ». Et comme j'avais, il me semblait plutôt, ce Denis de Rougemont, appartenir davantage à l'univers de Tristan et Iseult qu'au monde des dîners en ville, donc j'avais été extrêmement étonnée de le voir. Et c'était par ailleurs un homme tout à fait convivial, charmant, courtois, etc., et très disert, agréablement disert. Et alors les dîners chez Pierre et Denise avaient cette particularité de se prolonger fort tard dans la nuit, c'est-à-dire ça durait toujours jusqu'au moins vers 3 heures du matin. Et ils étaient copieusement arrosés. Et au fur et à mesure que la soirée s'avançait, le ton de Pierre Klossowski devenait de plus en plus mystérieux. Il se mettait à murmurer et on devinait les mots de « société secrète » ou bien encore le mot « complot ». Et on ne savait pas si ça renvoyait à Nietzsche ou bien à Bataille et au mouvement d'acéphale auquel la rumeur avait associé des rites orgiaques et sacrificiels dont la forêt de Saint-Nom, la Bretèche, aurait été le théâtre. Là, je vous renvoie là-dessus à Michel Suria, mais je n'ai jamais su dans quelle mesure ces rites avaient bien existé et dans quelle mesure Pierre de Klossowski y avait participé. Je n'ai jamais su, mais comme l'a dit Michel Suria, nul n'a vraiment dérogé à la règle du silence parmi les participants supposés à ces rites étranges. Pierre et Denise dînaient souvent m'emmenaient souvent à des soirées chez Bruno Gay-Lussac, dont le grand appartement se prêtait au mieux au déploiement du théâtre klossowskien de société. Alors, c'était tous les amis de Pierre s'y retrouvaient. Il y avait Louis-René Desforêts qui promenait sa silhouette silencieuse et sombre. Il y avait Giancarlo Marmori. On y côtoyait aussi Florence Delay, son amie l'actrice Claudine Auger, la première James Bond girl française. Fascinante apparition dans sa longue robe de soie bruissante de couleur flamme qui m'est restée tout à fait présente à l'esprit. Alors c'est au cours de ces soirées que Pierre Klossowski se livrait avec les autres invités, mais en même temps c'était pas tous les invités, on fermait une des portes de l'appartement et puis on s'y enfermait et il s'agissait donc de se livrer à des jeux de société, à ces jeux de société favoris qui étaient soit des portraits, tableaux vivants, enfin qui consistaient par exemple pour les portraits à mimer des scènes appartenant à son monde fantasmatique, à Pierre. Et ou bien, par exemple, je me souviens avoir en particulier de scènes de la vie de Sade que les spectateurs devaient deviner. Et j'avais été invité par Pierre à mimer Rose Keller, mendiant Place des Victoires, accosté par Sade qu'il avait embarqué à Arcueil. Alors, notre hôte... Alors, il y avait aussi un soir où j'avais été un peu surprise, parce que notre hôte, Bruno Gay-Lussac, c'était un homme très séduisant, qui avait une réputation de libertin, mais d'un libertin qui ne se serait pas contenté, comme Pierre Klossowski, de mise en scène, mais plutôt de mise en acte. Et au cours d'une de ces soirées, Pierre et Denis s'apprêtaient à partir et à me ramener chez moi, et j'exprimais le désir de rester. C'est alors que je vis, à ma grande surprise, Pierre Klossowski se comporter avec moi en père de famille. Il refusa énergiquement de me laisser et exigea avec autorité que je parte avec eux. Alors, il y avait une phrase de Pierre que je retiens là, et qui disait « Ma véritable ambition n'est rien d'autre que de trouver des complices ». Et c'était effectivement, avec tous ses amis, c'était sa démarche, enfin de les enrôler dans son théâtre à lui et de les faire complices de ses fantasmes. Il les enrôlait donc dans la représentation de ses fantasmes. Déjà, la traduction littéraire de ses fantasmes, comme dans Le bain de Diane ou dans Les lois de l'hospitalité, était déjà une façon de les partager, mais ça ne lui suffisait manifestement pas, et il en donnait aussi une représentation graphique. À partir des années 70, d'ailleurs, cela devint son activité dominante avec le relatif abandon de l'écriture. Alors, il chercha aussi, commençait à s'adjoindre des photographes et des cinéastes, et c'est Pierre Zucca d'ailleurs qui fit un film sur Robert et qui a été l'auteur des photographies de La Monnaie Vivante. Le mouvement de Klossowski était animé par à la fois par ce qu'il appelait la réitération. Il fallait réitérer toujours la même scène, hein, la reproduire, la répéter, mais son mot c'est réitérer. Et puis il y avait aussi une sorte de démultiplication, c'est-à-dire qu'il fallait que ça se passe sur plusieurs scènes, à travers plusieurs, selon plusieurs modes, et dont ces tableaux vivants faisaient partie. Et cette réitération et cette démultiplication, donc, commandé par ces images intérieures, lesquelles étaient nécessitées par ce qu'il appelait l'impulsion, pour reprendre son terme. Et ces images intérieures, en même temps, c'était quelque chose qui était de l'ordre de la représentation de l'incommunicable. Et toute la démarche de Pierre, ça consistait à essayer de communiquer l'incommunicable comme tel, et de partager l'inéchangeable, ce qui était proprement une entreprise de aporétique, hein, c'est-à-dire contradictoire. En somme, ce qu'il cherchait, c'est à trouver toutes les manières possibles d'explorer son espace mental singulier, de lui en trouver des traductions, des expressions variées, qu'elles soient littéraires, philosophiques ou artistiques, par lesquelles son expérience singulière était par là même réitérée. Georges Bataille, dit-il, lui avait appris l'obstination méthodique qu'il fallait pour reproduire, je le cite, pour reproduire et articuler cette part d'affectivité en nous la plus réfractaire à une organisation intelligible. Je trouve cette phrase remarquable, enfin, cette obstination méthodique que lui aurait enseigné Bataille. En tout cas, l'obstination, ça, il n'en manquait pas. Et Bataille lui avait aussi appris que sans cette obstination et cette méthode, donc qui s'est traduite chez Pierre Klossowski par la réitération de la représentation, nous serions enclins, dit-il, à nous intégrer hâtivement à des orthodoxies de tous ordres et à nous trahir. Il s'est donc agi pour Pierre Klossowski de s'obstiner à transmettre l'intransmissible, c'est-à-dire la singularité d'une expérience, par la réitération de quelque chose qui vienne la représenter, ou plus précisément, dit-il, qui en soit le simulacre. Alors, celui-ci devient, avec Robert, et tout ce qu'il mit sous ce nom, sous le nom de Robert, ce qu'il appelle le signe unique. Et le signe unique a cette particularité de réunir en lui les contraires, ce qui le fait par là échapper à la signification. C'est-à-dire que la divulgation du signe unique maintient en même temps le secret et préserve l'inéchangeable. Et le signe Robert comme signe unique possède cette dimension-là. Robert comme signe unique se résume à cet oxymore, ou comme il le dit, ce solécisme, de sa main dégantée offrant sa paume par le geste même qui repousse son assaillant. On peut dire que Robert comme signe, c'est ça, c'est cette représentation fétichiste, on peut dire, de cette main dégantée qui à la fois s'offre et repousse. Alors l'obsession de la réitération conduira Klossowski à méditer sur l'éternel retour de Nietzsche. Et ça, ça a donné son livre « Nietzsche et le cercle vicieux ». Le langage, d'ailleurs, écrit-il à la fin de cet ouvrage, est le simulacre de la singularité obstinée de notre fantasme. Car si nous avons recours au langage, écrit-il, c'est que par la fixité des signes, il offre aussi l'équivalent de notre singularité obstinée. Klossowski n'hésite pas cependant à se confronter à l'aporie de sa position, aporie qu'il déploie dans les lois de l'hospitalité et dans la monnaie vivante. Le cas singulier, en effet, ne risque-t-il pas de disparaître comme tel dès lors qu'il emprunte les signes institués, ceux du langage par exemple? Dès qu'elle devient intelligible, c'est-à-dire échangeable, la singularité ne se perd-elle pas? Serait-ce pour la faire renaître qu'on est conduit à réitérer sa divulgation? Les lois de l'hospitalité, je le rappelle, avaient pour thème l'acte de livrer l'épouse aux hôtes, c'est-à-dire de divulguer l'unique, ce qui est redoublé par la publication même des lois de l'hospitalité, justement. C'est-à-dire c'est en abîme que ça fonctionne. Et c'est cette même problématique que Pierre Klossowski déploie dans La monnaie vivante, où, tout en opposant les lois de l'hospitalité à la prostitution, il évoque le risque de la dégradation de ces lois dans l'autre, donc dans la dégénérescence, en somme. Alors, La monnaie vivante, qui est un texte de 1970 ou 71, je ne sais plus, fut illustré par les photographies de Pierre Zucca, et Pierre m'avait demandé de poser pour ses photos, ainsi qu'à Jean-Noël Vuarnet, que je connaissais par lui d'ailleurs, et avec qui j'étais amie, et Jean-Noël, qui débutait à ce moment-là une carrière universitaire à Vincennes, avait été un peu effrayé à l'idée de se montrer ainsi publiquement dans le plus simple appareil, et du coup il avait refusé, et il m'avait conseillé d'en faire autant. Alors, moi, je n'avais pas les mêmes raisons à ce moment-là de me protéger de cette divulgation, si je puis dire. Et je pensais qu'il, par ailleurs, il s'effrayait bien à tort. Mais quand même, je ne sais pourquoi, je me suis alignée sur sa position et j'ai refusé. Ce qui est un des regrets de ma vie, évidemment. Heureusement, Pierre Klossowski me donna l'occasion de me rattraper et de figurer de quelque manière dans son œuvre quand il me demanda d'interpréter pour la radio le rôle de Robert dans Robert et Gulliver. Alors l'enregistrement fut très amusant, tout se passait entre amis, c'était son fils Mathieu qui assurait la partie technique de l'enregistrement et Pierre Klossowski faisait des grimaces absolument irrésistibles pour me faire rire comme le rôle l'exigeait. Alors, quand sur ces entrefaites, donc, j'ai été nommée professeur dans un petit lycée de Normandie. Et Pierre et Denise, amis fidèles, s'étaient arrêtés sur la route de Cerisy-la-Salle pour me rendre visite. Et malheureusement, je les avais manqués. Mais leur tentative m'avait fait très chaud au cœur dans mon exil, je m'en souviens encore. Et il m'arrivait quand même dans cet exil de revenir à Paris pour le week-end, ce qui m'avait permis de participer à la fête qu'il donnait assez rituellement pour la Chandeleur dans l'atelier de Balthus, cours de Rouen, où Denise faisait des crêpes, où tout le monde dansait. Enfin, il y avait cette année-là, outre les habituels amis, il y avait aussi Michel Butor et Jean-François Lyotard. Et je me demande pourquoi je n'ai pas le souvenir d'y avoir croisé Barthes. Il me semble qu'il aurait dû y être. Alors, peu après, je me retrouvais sur le divan de Lacan. Et Klosowski, à qui je l'avais dit, me demandait régulièrement des nouvelles de celui qu'il appelait Jacques le fataliste. Alors, il revenait souvent sur une anecdote qui manifestement l'avait beaucoup marqué et qui datait de l'époque où il était encore séminariste dans la région lyonnaise. Alors, il faut dire que cet épisode m'est toujours resté complètement énigmatique. Je ne comprends pas comment Pierre Klosowski avait pu échouer dans un séminaire, lyonnais ou parisien d'ailleurs, étant donné son parcours, son milieu, sa trajectoire intellectuelle. Enfin, ça me paraît tout à fait rocambolesque. Je suppose qu'il devait y avoir derrière ça expérience intérieure incommunicable, mais je n'en sais pas plus. Et enfin, il a fait un petit tour pendant la guerre, et puis ça n'a pas non plus duré très longtemps. Et bref, donc il était revenu à Paris faire un petit séjour à Paris pendant cette période. Et il descendait un escalier, il me semble me souvenir que c'était de chez Bataille, et pendant que Lacan était en train de monter. Et il se connaissait très bien, bien entendu, et Lacan le voit en soutane et lui lance « ça va, ça va, ça va ?» Sans doute cette exclamation eut-elle une valeur d'interprétation. Toujours est-il que peu de temps après, Klosowski avait quitté la soutane, rencontré Denise, qui avait avantageusement remplacé Dieu dans l'orientation de sa vie. Il s'était dès lors placé sous le signe de Roberte, et je voudrais pour finir vous dire quelques mots justement sur Denise. J'ai souvent dit Pierre et Denise, ils étaient en effet inséparables, indissociables, elle était à son égard d'un dévouement total, souvent narquoise, toujours d'une absolue disponibilité à toutes ses fantaisies. Elle ne se prenait pas au sérieux, elle aimait rire et danser et recevoir les amis, et le film d'Alain Fleischer que vous allez voir vous la montrera fidèle à elle-même, c'est-à-dire à Pierre Klosowski, adorable. Dans ce film, Pierre a 30 ans de plus qu'à l'époque où je l'ai connu. En 68, il avait à peine plus de 60 ans. À l'époque du film d'Alain Fleischer, Pierre était amoureux depuis quelques années du petit-fils de Louis-René Desforêts, Gabriel. Il va sans dire que c'était un amour tout à fait platonique. Mais le signe de Roberte n'était plus le signe unique. Et sur cette évolution qui prolongeait ce qui était déjà présent dans l'œuvre de Klosowski sur le thème, avec le thème du Baphomet, Pierre Klosowski s'explique dans le film. C'était l'âge, dit-il. Et il ajoute que Denise, la première fois qu'il l'avait vue, était déguisée en jeune homme pour les besoins de quelques représentations théâtrales. En somme, c'était le jeune homme en elle qui l'avait séduit. « J'avais raison », ajoute-t-il bizarrement. Et cette bizarrerie, c'est tout lui. Voilà.